a appris ce dimanche le décès d'Armand Abécassi. Ses obsèques ont lieu cet après-midi à 14h30 au cimetière de Bagneux. Et pour la séquence hebdomadaire à la Une d'Académ, vous avez choisi de lui rendre hommage. Ruben Honigmann, bonjour.
Bonjour Elsa, j'ai été surpris quand j'ai appris le décès d'Armand Abécassi et j'ai été surpris d'être surpris. Dans un premier temps, Armand Abécassi avait 93 ans, c'est un âge où on s'attend à ce que ce type de choses se produise, même lorsque, comme quand Armand Abécassi, on est en très bonne santé. Seulement voilà, il y a quelques semaines, en janvier dernier, nous avions organisé, grâce à l'initiative d'Eliette Abécassi, sa fille, une soirée en l'honneur d'Armand Abécassi au Centre Rachi, avec Académ et le Centre d'art et de culture juive. Et l'occasion qui nous a amené à ça, c'était la mise en ligne sur Académ d'une bibliothèque virtuelle composée de dizaines d'heures d'enregistrement audio et vidéo du maître. Pour organiser cette soirée avec Alain Knafo, on avait marché un peu sur des œufs parce qu'il fallait éviter que cette soirée ne prenne des allures d'enterrement avant l'heure. Mais nos craintes furent dissipées rapidement dès l'instant où Armand Abécassi avait pénétré sur scène, car d'Armand Abécassi se dégageait ce rayonnement propre aux grands hommes de Torah, un je ne sais quoi de juvénile dans la voix, dans le sourire et surtout son étonnement permanent face à toute question, face à toute rencontre, face à toute personne et face à tout texte. Et à côté de lui, c'est nous en fait qui nous sentions vieux. Alors quand on apprend voilà, la disparition d'un tel homme, et ben on se dit toujours « tiens, mais on avait l'impression qu'il y avait quelque chose chez lui qui ne pourrait jamais mourir ». Et cette fraîcheur d'Armand Abécassi se traduisait par un aspect précis qui m'a fait penser à un des tout derniers versets de la Torah. Quand on parle de la mort de Moïse, justement, juste avant qu'il meure, le texte dit que son œil était resté humide. Voilà. Il y avait une fraîcheur dans son œil qui était restée intacte et avait, effectivement, chez Armand Abécassi, jusqu'au bout, moi, je n'ai pas très bien connu Armand Abécassi tout au long de sa vie, mais lors de cette soirée, j'ai vraiment eu l'occasion d'échanger avec lui. Il y avait dans son regard, dans son œil vif, quelque chose de prime sautier, quelque chose de l'ordre toujours de la première fois. C'est comme si, voilà, ces textes qu'il a étudiés toute sa vie, qu'il a enseignés toute sa vie, c'est comme si il les découvrait pour la première fois. Je l'avais notamment confronté à une photo de lui. On avait travaillé un peu sur des photos pour revenir sur sa trajectoire de vie. On avait commencé par une photo où il avait 5 ans. Et je l'avais mis un peu en dialogue avec lui-même. Qu'est-ce qu'il aurait à dire à ce garçon? Et puis, il avait dit à toute la salle qu'en fait, son questionnement en fait, était resté plus ou moins le même pendant 90 ans. Il se posait la question, est-ce que la vie a un sens? Et quel est le sens de la vie? Ce qui implique parfois des choses douloureuses, de se confronter à l'absurde, à l'injustice, au tragique, à l'incompréhensible, mais qu'en fait, c'était le fil rouge de toute sa vie. Et je voudrais aussi insister sur un autre aspect propre à Armand Abécassi. Et on est heureux à Académ d'avoir de nombreux enregistrements témoins de cela. C'est son implication et l'énergie incroyable qu'il a mis au service du dialogue judéo-chrétien. Et pas juste le dialogue judéo-chrétien pour arrondir les angles, la paix tiède, mais celle qui implique vraiment une dimension de Kiddush Hashem, de sanctification du nom divin. C'est quelqu'un, Armand Abécassi, qui a arpenté toute la France, jusque dans les villages les plus reculés, et qui s'est aussi souvent rendu en Afrique pour cela, sans aucune, vous récolter aucune gloire de ça. C'est-à-dire que ça s'est fait dans la plus stricte confidentialité. Il allait inlassablement se confronter aux questions que les chrétiens se posent sur les juifs et pour apporter aussi une voix juive aux chrétiens. Il pensait qu'il y avait quelque chose pour les chrétiens à entendre du côté juif. Et c'est quelque chose qui est très important, qu'il a fait de façon extrêmement discrète tout au long de sa carrière et de sa vie. Et rares sont ceux qui font cela d'une manière aussi authentique et aussi intense. Et ça m'a fait penser à un autre verset qui est au début du livre du Deutéronome, où la Torah tient un discours sur elle-même. La Torah parle de la Torah et dit « Kihi chochmatrem ou binatrem le'ene chol ha'amim » que la Torah, c'est notre sagesse aux yeux des nations. Que les nations ont quelque chose à reconnaître dans la grandeur du peuple juif au niveau du contenu de leur enseignement. Et je pense que Armand Abécassi fait partie de ceux qui ont, avec acharnement et dans un dialogue exigeant toujours, porté cette richesse, cette profondeur de l'enseignement de la Torah auprès des nations, et j'ai souvent entendu des témoignages de personnes chrétiennes lors de cette soirée, mais aussi avant cette occasion, qui disaient leur reconnaissance envers Armand Abécassis, que ça leur avait transformé, modifié en profondeur le regard qu'ils portaient sur les Juifs et sur le judaïsme. Et je pense qu'on peut tous être reconnaissants à Armand Abécassis de cela. Maintenant, Armand Abécassis n'est plus, il est décédé. Il reste ses nombreux ouvrages, ses nombreux livres dans lesquels il faut se plonger. Il reste cette bibliothèque en ligne que nous avons pu, grâce à Eliette Abécassis, mettre en ligne sur Academ. Vous avez des dizaines et des dizaines de cours audio et vidéo, des commentaires de Paracha, des commentaires de Haftara, des dialogues avec des hommes d'église, des conférences, un portrait de vie où il raconte tout son itinéraire. Et il faut, j'invite tous les internautes à se plonger là-dedans. Et je vous invite aussi à écouter un extrait de l'entretien qu'Armand Abécassis avait fait avec Antoine Mercier, où il racontait sa trajectoire.
L'interprétation en quoi elle consiste, nécessairement, dans le rapport de ce que dit la Torah à travers ses manières d'organiser les discours poétiques, épiques, etc., historiques, prescriptifs, différentes modalités de récits dans la Torah, voir quel est le problème qui est posé dans ces récits, et voir précisément comment aujourd'hui notre situation pose le même problème. Et faire le dialogue, et faire l'interprétation, non pas pour adapter, ça c'est un mot que je n'aime pas, c'est de la botanique ça, l'homme ne s'adapte pas, mais il faut actualiser de telle manière de rester fidèle en même temps créateur. Voilà le problème tel qu'il se posait dans ce temps-là, maintenant aujourd'hui on le dirait de cette manière-là, et le dire de cette manière-là nécessite l'ouverture que n'ont pas souvent les rabbins à la culture générale. Parce que nous sommes dans la culture générale, sinon le texte reste ce qu'il est, ça devient du mystère et du dogme, ça devient de la petite morale à quatre sous, et je n'ai pas besoin de la Torah pour faire la morale à quatre sous. J'ai besoin de voir si aujourd'hui il est sérieux d'être juif ou pas, si le Shabbat vraiment parle à la culture générale, pour ça, il parle à la culture générale. Et donc il faut absolument, et la culture générale essentiellement le discours philosophique bien sûr, ou scientifique mais surtout philosophique, ou métaphysique, et faire le dialogue véritablement, et bien nos grands maîtres. Comment Maïmonide est Maïmonide, comment le Maharal est Maharal, comment le Saadia Gaon est Saadia Gaon, comment Judah Lévi est Judah Lévi, comment tous nos grands maîtres de Ralbag, etc., comment, pendant tout le Moyen-Âge, c'est parce qu'il assumait le dialogue avec la culture générale.
Une bibliothèque, vous l'avez rappelé, Ruben, a retrouvé en intégralité sur le site d'Academ, www.academ.org.